Cette année, les temps d'études bibliques ont toujours lieu le mardi, à partir de 20h. Vous n'avez peut-être pas perçu jusqu'ici la nouveauté, c'est que nous nous retrouvons un mardi sur deux. Donc nous avons commencé nos études bibliques pour cette année, il y a de cela presque 15 jours, et donc ce mardi prochain sera la deuxième rencontre. Donc voilà, je sais qu'il y avait des habitués, et puis pour tous ceux qui veulent nous rejoindre, ce que nous voulons partager et étudier en ce début d'année, c'est le livre de Michée. Donc voilà, n'hésitez pas à venir, et une autre occasion, oula, si on peut enlever l'écho, là c'est une horreur. L'autre chose que je vous demande de retenir aussi, c'est que pour tous ceux qui désirent lire leur Bible et se sentir encouragés de la lire, il y a une occasion qui est proposée et offerte à tous, c'est de parcourir la Bible en un an et de le faire avec des frères et des sœurs et notamment avec des frères et des sœurs de Massy. Si ça vous intéresse, venez me voir tout à l'heure, je ne peux en dire plus. Mais voilà, je vous encourage vraiment à aussi prendre le temps d'étudier et de lire votre Bible en dehors de vos propres lectures personnelles chez vous, et pourquoi pas de nous rejoindre dans ces différents moments. Je m'arrête là, parce que sinon je vais encore faire maintes annonces, et c'est pas le but. Alors, je m'arrête là, et j'en viens surtout à vouloir partager dans ce temps important pour nous, une parole fraternelle. Et pour beaucoup d'entre vous, du moins je l'espère, vous avez eu certainement l'occasion, tout au long de cette semaine, à un moment donné, de vous retrouver avec des frères et sœurs, dans un groupe pas très loin de chez vous, dans un groupe de maison. Je ne vais pas vous demander de lever la main à vous tous qui y êtes allés et qui en avez profité. Mais cette année, pour vouloir aussi amorcer une nouvelle dynamique, de vouloir répondre peut-être plus encore à sa volonté, nous avons souhaité que tous les groupes de maison, dans le temps de partage biblique, puissent vivre et partager autour d'un même texte, de se questionner et de regarder à sa vie de foi personnelle et communautaire. Alors voilà, c'était un début. Et pour tous ceux qui en ont profité, d'ailleurs, ceux qui ne l'ont pas fait, je vous invite à ne pas hésiter à rejoindre un groupe de maison prochainement. Chaque mois, nous nous retrouvons. Donc, il y aura occasion de faire des annonces plus tard, et vous saurez aussi où se trouve le groupe le plus proche de chez vous. J'y viens pas, c'est pas le moment. Nous avons donc eu l'occasion de regarder et d'ouvrir le livre, ou plutôt l'épître, voire même la lettre de Jacques. Une lettre qui parfois ne fut pas toujours appréciée à sa plus juste valeur par certains de nos aïeux, comme le premier de tous les protestants. Mais c'est une épître qui nous renverse, qui nous chamboule, à commencer déjà par ce début d'épître que nous allons lire dans un instant. Mais j'aimerais tout d'abord commencer par quelques questions, d'ailleurs, que cette épître nous pose, et dès ce début. Parce que Jacques aime à parler d'épreuves très vite et très tôt dans son épître. Et moi, d'ouvrir ainsi en vous disant, mais nous tous, qui très certainement avons connu parfois des difficultés, des épreuves, pour le dire ainsi, pour l'instant, comment sommes-nous censés vivre, traverser ces choses parfois lourdes et dures, voire c'est peut-être même demander l'impossible, soit joyeux dans l'épreuve. Alors, j'aimerais revenir avec vous sur justement ce passage, que nous puissions le relire ensemble, ce début de la lettre de Jacques, donc c'est en Jacques chapitre 1 et à partir du verset 2, le premier étant une introduction. Donc Jacques chapitre 1 à partir du verset 2 et nous nous arrêterons au verset 19. Alors, je vais lire dans la traduction que j'apprécie souvent, celle du Semeur, donc. Elle va certainement s'afficher là à côté, mais je vous invite surtout à écouter et entendez surtout ce que dit Jacques à chacun d'entre nous encore ce matin. Mes frères et sœurs, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. Car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire, pour que vous parveniez à l'état adulte et soyez plein de force, des hommes auxquels il ne manque rien. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, à qui la lui donnera ? Car il donne à tous généreusement et sans faire de reproche. Il faut cependant qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer agitée, et soulevé par le vent. Qu'un tel homme ne s'imagine pas obtenir quoi que ce soit du Seigneur, son cœur est partagé. Il est inconstant dans toutes ses entreprises.
Que le frère ou la sœur pauvre soit fier de ce que Dieu l'élève et le riche de ce que Dieu l'abaisse. En effet, il passera comme la fleur des champs. Le soleil se lève, sa chaleur devient brûlante et la plante se dessèche. Sa fleur tombe et toute sa beauté s'évanouit. Ainsi en est-il du riche, il disparaîtra au milieu de ses activités. Heureux l'homme qui tient ferme face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne du vainqueur, la vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, devant la tentation, ne dise « C'est Dieu qui me tente !» Car Dieu ne peut pas être tenté par le mal, et ne tente lui-même personne. Lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous, qui nous attirent et nous séduisent. Puis le mauvais désir conçoit et donne naissance au péché. Or, le péché, une fois parvenu à son plein développement, engendre la mort. Ne vous laissez donc pas égarer sur ce point, mes chers frères et sœurs. Tout cadeau de valeur, tout don parfait nous vient d'en haut, du Père des Lumières, et en qui il n'y a ni changement, ni ombre due à des variations. Par un acte de sa libre volonté, il nous a engendrés par la parole de vérité pour que nous soyons comme les premiers fruits de sa nouvelle création. Vous savez tout cela, mes chers frères et sœurs. Et nous arrêtons là notre lecture et notre méditation en ce qui concerne cet épître. Nous aurons l'occasion d'ailleurs plus tard d'y revenir tout au long de cette année, car nous voulons aussi de temps en temps le faire. Mais je reviens sur cette parole qui me semble à la fois surprenante et sur laquelle j'aimerais d'abord rebondir. Où Jacques se permet de dire ainsi, « Considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Tout un programme. Si un homme politique se lance avec une telle formule, c'est foutu. Je vous le dis tout bonnement, je pense que vous le savez, personne n'irait voter pour lui. Mais Jacques se permet de le dire à des frères et à des sœurs. Tels sont les mots, certainement, dans tout ce passage qui me semble, a priori, les plus dérangeants et étonnants que Jacques tient dans l'ouverture de sa lettre qu'il écrit à ses frères et sœurs. Il n'y a rien de naturel, ni de spontané d'associer si étroitement épreuve et joie. Et pourtant, à ses premiers destinataires, à ceux à qui d'abord il livre cette lettre, dans une période où l'Église est naissante, où l'Église sera persécutée lourdement et dispersée d'ailleurs, en cette même période où Jacques écrit cela. D'ailleurs, c'est cette période aussi où ce fameux Étienne, dans le livre des Actes, va mourir. Jacques écrit cela, ces mots-là, et dit cette phrase-là dans ce contexte de persécution. Et lui-même, d'ailleurs, viendra aussi à mourir quelques années après, en tant que martyr, tout comme Étienne. Mais il dit bien ceci, « Considérez tout cela comme autant d'occasions de joie », en gros. Alors, je n'ose imaginer ce qui s'est passé dans la tête des frères et des sœurs de l'époque. Jacques, qui était un pilier de l'Église, un peu comme un pasteur pour l'Église de Jérusalem. Certainement, quelques-uns ont dû se dire, mais il est fou. Il est fou. Il est tout bonnement fou. De quel droit peut-il me dire cela? Moi qui peut-être viens de perdre soit une tante ou un grand-père, ou pourquoi pas même un enfant, ou pourquoi pas son épouse. Il n'y a pas eu qu'Étienne qui est mort. Dans cette période, d'autres chrétiens sont morts. Et nous pouvons l'entendre d'ailleurs dans les témoignages que Paul laissera plus tard dans ses épîtres, où il se fit lui aussi persécuteur très vite après cela, et d'ailleurs eut lui-même l'occasion certainement de tuer quelques chrétiens avant même qu'il ne rencontre le Seigneur. Jacques écrit cela dans cette période où la persécution se fait de plus en plus féroce. On serait en droit de se demander si Jacques fait d'ailleurs preuve d'un manque de compassion ou de tact, tant cela semble surréaliste, quand il dit cela à ses frères et sœurs, dans sa communauté. À l'entendre, il nous faudrait vivre la joie dans l'épreuve. Et quoi encore pourrions-nous lui dire? Ça n'a pas la tête, pour être très gentil. Hein. Aussi, je vous invite à entendre le propos de Jacques comme une invitation particulière. une invitation à l'espérance dans l'épreuve. Une invitation qui puisse résonner comme une bonne nouvelle par l'œuvre que l'Esprit peut avoir au plus profond de notre cœur. Et non comme un poids qui ajouterait la culpabilité à la détresse. De se dire « je n'arrive pas à être heureux » et j'entends la parole du Seigneur me dire « sois joyeux dans l'épreuve » et de s'accuser plus encore. Non. Oui, l'intention chez Jacques ici, c'est de nous inviter à l'espérance dans l'épreuve. Il n'a pas dit « rigolez quand vous souffrez hein. ». Ce n'est pas ça qu'il faut entendre. C'est vraiment une invitation à l'espérance dans l'épreuve. Mais alors, qu'est-ce qu'il veut nous dire plus exactement ? N'en oublions pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, que Jacques, comme les autres premiers chrétiens qui vivaient à Jérusalem et dans les environs proches, a expérimenté le même sort en réalité, les mêmes pertes, les mêmes douleurs que ses destinataires. Et comme je vous l'ai dit, l'histoire et la tradition chrétienne nous rapportent aujourd'hui que lui-même mourut en martyr, peu après. Mais alors, que veut-il nous dire ? Et à quelle dimension de foi nous invite-t-il ? La première chose fondamentale que Jacques nous dit, et il est important de l'entendre, pour celui ou celle qui fléchit peut-être aujourd'hui même sous le poids de l'épreuve, ou encore pour celui ou celle qui souhaite accompagner quelqu'un qui vit quelque chose de difficile, une épreuve. La première chose fondamentale, je pourrais la résumer ainsi. L'épreuve n'est pas un accident de la foi. Oui, l'épreuve n'est pas un accident de la foi. Elle ne correspond pas à une perte de foi ou à une chute de celle-ci chez un frère ou une sœur ou chez vous-même. Elle n'est aucunement le fait d'une malédiction divine comme beaucoup en son temps l'interprétaient parmi les Juifs. Que ce soit au temps de Jésus, et Jésus d'ailleurs a expérimenté des échanges autour de cela, comme au temps de Jacques. Nous nous retrouverons quelques décennies après cela. Il n'y a point de malédiction si vous vivez une épreuve. Et si vraiment Dieu, par une épreuve, voulait vous dire quelque chose et vous avertir, il le ferait savoir. Or, si Dieu se fait silencieux dans l'épreuve, il n'y a point de malédiction pour vous. Entendez-le bien. Non, nous dit Jacques, l'épreuve n'est pas un lieu où Dieu se fait absent. Un temps ou un lieu duquel il se retire. Même si nous pouvons, nous, y penser, en douter. Elle n'est pas un lieu maudit ou stérile, l'épreuve, mais au contraire, le lieu où Dieu veut agir et rendre notre vie féconde. L'épreuve, en effet, est cette période, ce lieu où notre Père éternel veut plus encore se manifester pour nous, en nous. Là où il va nous permettre d'aller plus loin. Même si cela peut-être nous semble difficile et nous n'en voyons pas la portée de l'horizon qu'il veut dégager pour nous, pour après. Il désire, dans notre vie, dans ce qui fait tout notre être, y faire aussi le tri, peut-être. Enlever aussi ce qui nous encombre et aller au plus proche de l'essentiel dans notre espérance. Jacques nous dit donc une première chose que l'on pourrait exprimer de la sorte. Alors je l'ai emprunté à un très bon collègue qui l'a plutôt bien dit. C'est une expression un peu étonnante, mais Jacques presque nous dit ceci. Au bout du parcours, toi qui vis l'épreuve, ta foi sera complète. Que rien ne te manque. Et qu'ainsi éprouvé par l'exercice d'une patience déterminée comme l'or au creuset, ta vie en sera approuvée. La couronne décernée. Oui, tiens bon, mon frère, ma sœur, il y a quelque chose de bon à vivre là où tu es, aussi dur cela soit-il. Et oui, toute épreuve est difficile, souffrance. Sinon, elle n'est pas épreuve, mais au cœur de celle-ci, il y a un royaume à entrevoir, une joie à anticiper, une présence bonne à expérimenter. Celle du Dieu vivant. Voilà aussi qu'aurait pu être peut-être le propos que Jacques voulait faire passer en son temps à ses frères et sœurs qui vivaient des épreuves terribles. Mais Jacques ne s'arrête pas là. car il nous délivre aussi un second message. Un message qui explicite en quoi notre réaction de foi face à l'épreuve et à la tentation. Cette fois-ci, il me faut en parler, est déterminante, afin de demeurer intacte sous l'épreuve et de la vivre comme une occasion de croissance. Même si peut-être nous ne le voyons pas à première vue, dans le moment présent. En effet, dans sa lettre, Jacques fait se côtoyer deux notions, les notions d'épreuve et de tentation. Elles se côtoient. Or, ce qui ne se voit pas d'ailleurs dans pratiquement toutes nos Bibles, si ce n'est toutes d'ailleurs. Car en français, il est difficile de faire entendre ce que Jacques a exprimé autrefois. C'est que, en réalité, le même mot dans l'épître de Jacques, dans les versions les plus anciennes, qui n'ont pas été écrites en français. D'ailleurs, le français n'existait pas encore à l'époque. Il n'y avait même pas tout à fait de latin. Il commençait à devenir, donc imaginez le français. Mais revenons à ce que Jacques a exprimé, ou la manière dont cela a été transcrit et publié dans toutes les églises dès le début, c'était en grec. Et dans le texte grec, il n'y a qu'un mot pour exprimer les deux. Peu importe le mot d'ailleurs. Mais épreuve et tentation, dans le texte original, dans ce qu'il a adressé, se disaient en un seul et même mot. Donc, un mot, deux notions différentes, l'épreuve et la tentation. Alors pourquoi ? Je vous rappelle juste peut-être que ça n'est pas qu'en grec, mais en français, j'en pense dans beaucoup de langues, si ce n'est toutes, parfois un mot peut revêtir plusieurs sens. Et ce sens, on va avant tout le comprendre en fonction du contexte dans lequel il s'exprime. Ici, le mot employé par Jacques à propos d'épreuve et de tentation désigne donc, comme je l'ai dit, deux réalités qui se distinguent par leur but. Entendez-le bien, ces deux réalités, ces deux notions différentes qui, pour autant, s'appuient sur un même mot dans le texte original, pas chez nous, peu importe d'ailleurs, se distinguent par leur but. Je vous l'explique. La tentation, qu'est-ce que c'est ? Tel que Jacques en parle. La tentation, il nous dit, elle est due au péché ou au diable. Et vise, et là est le but, entendez-le, et vise notre chute. La tentation, c'est pour nous faire chuter. Elle est une forme de mécanisme intérieur qui peut nous entraîner vers la mort, parce qu'elle veut nous amener à pécher, et de rester dans le péché, et de continuer à pécher, au point de nous faire aller jusqu'à la mort. L'épreuve, quant à elle, entendez-le bien, c'est très très différent, bien que ce soit un même mot à l'origine, dans le texte. L'épreuve, quant à elle, est permise par Dieu. Il n'y a plus rien à voir avec le péché, il n'y a plus rien à voir avec le diable. Elle est permise par Dieu et elle a surtout comme but, entendez-le bien, notre perfectionnement. On est quasiment sur des chemins qui sont aux antipodes, l'un et l'autre. En résumé, un seul mot dans le texte, deux notions, mais qui se réfèrent au final à une seule et même situation concrète, la difficulté dans laquelle nous pouvons être. Et soit elle se fait épreuve, soit elle se fait tentation. Et cette situation concrète qui nous avive à souffrir, à vivre une difficulté, sera alors un test pour notre foi. Et c'est bien pour ça que l'on dit que Dieu la permet. Cette épreuve est l'occasion de confirmer, de tester, ou ici dans le langage de Jacques, d'éprouver, car c'est l'unique intention divine d'ailleurs, d'éprouver notre vie intérieure avec deux issues possibles. Première issue, celle qui mène vers la vie, celle que nous entendons d'ailleurs dans les versets 2 à 4 que nous avons lus tout à l'heure. Et l'autre issue, celle qui nous mène vers la mort. Un peu plus loin, il le décrit dans les versets 13 à 15. Autrement dit, ce sont bien deux scénarios contraires que Jacques dresse pour nous dans ce texte pour éclairer notre responsabilité et notre choix. L'épreuve est orientée vers la croissance. Alors dit comme ça, c'est un peu facile. Il faut le dire autrement encore. Dieu, dans l'épreuve, veut y être pleinement impliqué. Et c'est cela l'épreuve. C'est Dieu qui veut y être pleinement impliqué. C'est lui qui, par l'Esprit, en est le moteur et les fruits escomptés de cette croissance. C'est lui qui nous aide à vivre l'espérance malgré l'épreuve. et de porter aussi des fruits qui sont beaux. Et quels sont ces fruits au juste? Eh bien justement, Jacques n'arrête pas de les lister et de les mettre l'un après l'autre dans la logique que Dieu veut opérer dans notre cœur dans ces occasions-là. Je le reprends et je les cite un petit peu, mais il nous parle qu'à travers la souffrance, la difficulté, celle que nous pouvons alors appeler épreuve, quand nous laissons Dieu agir, quand nous nous attendons à lui et que nous nous appuyons sur lui, eh bien, premier des fruits qui apparaîtra, même si ce ne sera pas évident, l'acquisition de la patience. Parce que l'épreuve peut se faire longue. Et Dieu nous donne la force de trouver la patience dans l'épreuve. Il nous donne aussi l'endurance. Et le mot est encore plus fort. Et il y a cette expression que Jacques a donnée encore, la joie complète. Ça semble toujours un peu étonnant, voire même franchement étonnant. Mais quand il parle de la joie complète, c'est celle qui est de l'ordre de l'anticipation des biens à venir. Nous pouvons être dans la souffrance et pour autant esquisser une joie en nous en sachant ce que Dieu nous a déjà promis. Nous pouvons souffrir et parfois vivre des choses terribles pour autant en apercevant avec joie les promesses qui nous attendent. Autre fruit encore qui sont évoqués ici par Jacques, c'est celle aussi de l'expérience aujourd'hui, de la présence sensible, si vous préférez, on pourrait la dire visible, au sens où nous pouvons savoir Dieu présent. L'expérience du don de la sagesse, surtout. C'est cela qui est étonnant. Dieu permet l'épreuve que pour nous puissions expérimenter la sagesse et de sa puissance. Autre fruit encore qu'il nous invite à goûter, c'est la couronne de vie. Cette récompense du royaume à venir. Et quand nous le voyons comme un fruit lié à l'expérimentation d'une épreuve, nous pensons et nous comprenons pourquoi Jacques se permet de parler de joie. Parce que Dieu nous offre aussi l'occasion d'expérimenter ce qu'est la couronne de vie, cette récompense du royaume à venir. Et au milieu de tout cela, le défi par l'esprit de tenir bon. De choisir délibérément la perspective de la foi, de parler le langage de l'espérance. Regardez dans nos communautés chrétiennes, ceux qui parfois sont des personnes qui sont à même, lorsqu'ils viennent vous visiter, quand vous-même, vous n'allez pas forcément bien, d'être pour vous une occasion d'espérer, tant dans leurs paroles. Pourquoi et comment sont-ils parfois d'un si grand réconfort envers nous? Parce que Dieu déjà leur a fait don de cela. Il les a fait expérimenter son espérance, et notamment à travers des épreuves, qu'elles soient moins fortes ou plus fortes, peu importe. J'ai presque envie de dire, et c'est quand même très bizarre de le dire ainsi, merci Seigneur que, avant moi, des frères et des sœurs ont expérimenté et que tu as permis qu'ils soient éprouvés pour qu'eux-mêmes me montrent ce que tu es dans ce que tu veux accomplir dans le cœur de chacun d'entre nous. Je pense que pour beaucoup d'entre nous, si nous avons été encouragés à suivre le Seigneur dans cette vie de foi, c'est parce que les gens qui ont été avant nous et nous ont communiqué cela, eux-mêmes l'ont expérimenté. À commencer très certainement pour beaucoup, pas tous, mais pour beaucoup, par nos propres parents. Ainsi même, si ça cogne et même si c'est dur, alors nous sommes convaincus que Dieu agit, qu'il nous grandit, qu'il nous recentre, qu'il nous épure, qu'il nous forme au travers de tout cela en raison de la foi qui est le premier don, par grâce, qu'il nous a offert pour traverser l'épreuve. Et quand la perspective nous manque, et elle peut nous manquer, il ne nous reste que ce don de Dieu, la foi. Celle qui nous pousse à donner à Dieu le volant. Car c'est peut-être là l'ultime but de l'épreuve. De nous faire comprendre que nous n'avons aucune force. Et que la seule force à laquelle nous pouvons nous accrocher, elle n'est pas de nous. C'est Dieu qui nous la donne. C'est cette foi, celle qui nous permet de me dire « Je peux que m'accrocher à toi, je ne sais plus rien faire d'autre. Je n'ai plus rien. » Pour y voir ensuite et bientôt plus clair quant à son action et de voir à nouveau, même si cela peut prendre du temps, l'horizon du royaume qui se dégagera et déjà se forme en nous. car ce royaume va se faire plus présent en nous. Par l'épreuve que Dieu permet, notre foi va grandir, et par elle, nous allons apprendre à mieux le connaître, lui. Nous allons nous rendre compte que Dieu travaille en nous et va nous transformer. Qu'il nous donne les forces pour tenir bon, tout en sachant que nous restons faibles et fragiles, mais nous pouvons tenir bon grâce à lui, parce qu'il nous rend fort. Et au final, de comprendre que le privilège de la sagesse dont Jacques parle, parce qu'il a dit tellement de choses qui semblent ne pas être reliées, oui, que le privilège de la sagesse dont Jacques parle, ce reste, ou encore ces réalités terrestres, c'est-à-dire, alors il y en a tant, hein, nos richesses, notre réputation, nos privilèges, notre positionnement, notre appartenance sociale ou notre apparence, certaines relations, tout ce qui, quelque part, pouvait être pour nous un appui sur lequel nous espérions compter au jour où rien ne va, que tout ce qui est là, toutes ces réalités terrestres, est déjà en train de faner. Et quand je dis cela, c'est parce qu'elles n'auront plus d'importance. Nous serons les relativiser dans ce qu'elles sont véritablement pour nous. Car par l'épreuve, Dieu nous invite à relativiser cela et de voir où se trouvent les attaches sûres dans notre vie, l'unique même. Car ce qu'il nous invite à vivre aussi, et ce qu'il nous fait faire par la foi, c'est de courir vers le Christ, vers cette couronne de vie qui nous est promise à celui qui vaincra et qui tiendra bon, pour reprendre des expressions que nous connaissons et qui viennent aussi de ce langage-là. Voilà le chemin de vie que le Seigneur nous offre, malgré les épreuves. Mais parce que Jacques aussi explique et développe l'autre chemin possible, il ne faut pas l'oublier, et il est bon aussi de l'expliciter un peu pour en comprendre ses rouages. À l'inverse, le mécanisme de la tentation, qui part d'une même situation, rappelons-le-nous, hein, est un mécanisme qui conduit à notre perte. Le moteur, comme il l'explique, en est le péché, ou, dit autrement encore, par la chair. Nous sommes tentés par la chair. Et ce n'est pas la concupiscence, hein, ici, ou tout ce que nous mettons comme idée derrière. La chair, ça va bien au-delà de cela. Et je pense une bonne manière de le rendre, c'est de dire l'homme abandonné à ses propres ressources. Toutes ces choses que j'ai citées tout à l'heure, ces choses extérieures sur lesquelles nous nous accrochons et nous pensons pouvoir tenir grâce à cela. Oui, dans la tentation, dans le mécanisme de la tentation qui nous amène à notre perte, Dieu en est absent. Non pas que lui se fait absent ou se retire, mais nous l'excluons de cela. Et bien sûr, il ne peut être tenu responsable de cela. C'est bien pour ça que Jacques se permet d'affirmer qu'en Dieu, il n'y a aucune tentation et que Dieu ne tentera pas. La logique est là. Et face à ces circonstances adverses, face aux biens éphémères qui nous sont proposés, c'est la tentation de choisir la voie du raccourci, la facilité des récompenses immédiates. Face à la tentation, c'est celle d'y céder ou de vouloir, dans une situation troublée, de se débrouiller par soi-même plutôt que de se tourner vers Dieu et requérir sa présence, son soutien, sa sagesse et son intervention. Autrement dit, et pour l'exprimer encore autrement, une dernière fois ou presque, la tentation telle que nous l'a fait connaître Jacques, c'est la voie du repli. C'est ce refrain intérieur qui nous est malheureusement trop familier, peut-être encore. Et de se dire, pour certains, s'il nous est arrivé un jour cela, Dieu me tente. Dieu me met dans cette situation et je lui en veux. Qu'est-ce qu'il peut pour moi dans ces temps-là? Pourquoi est-ce qu'il permet ça? Je ne peux pas faire confiance à un Dieu comme ça et je vais chercher ma consolation et ma satisfaction ailleurs. Je vais prendre un chemin de traverse, un raccourci. Parfois, on ne dit pas ces mots-là, mais nous pouvons commencer à avancer dans ce chemin-là. En faisant cela, effectivement, je nourris mes désirs. Je nourris mon penchant naturel à me débrouiller tout seul, à me dire « non, je suis capable d'eux, donc je le fais ». Et sans nous en rendre compte, très souvent d'ailleurs, C'est inconscient, c'est imperceptible, c'est dangereux même. J'amorce par là le péché. Le mécanisme tourne lui-même, le péché d'ailleurs continue de grossir pour conduire à l'éloignement total, si nous n'y prenons garde, jusqu'à aller à ce point de non-retour, si nous n'étions pas encore jusque-là attachés à Dieu. Et malheureusement, d'en arriver à la mort. Et quand je dis ici, c'est de la mort spirituelle dont je parle. Je reviens tout en arrière par rapport à ce que j'avais dit avant de développer l'un et l'autre de ces chemins que Jacques nous expose ici. Une même situation initiale, la difficulté, la souffrance que nous pouvons traverser et vivre, soit individuellement, soit collectivement dans une famille, ou soit même en tant qu'Église, et avec toutes ces possibilités. Une même situation initiale, deux manières de le vivre et de le traiter. Et pour le résumer très simplement, c'est avec ou sans Dieu. Il y a deux noms pour cela, l'épreuve et la tentation. Et il y a deux issues pour cela, la vie éternelle ou la mort. Voilà ce que nous dresse Jacques. Autrefois, et rappelez-vous, à ces chrétiens qui connaissaient des persécutions, qui voyaient peut-être même les leurs être soit tués pour quelques-uns, et très souvent parfois mis dehors, perdre leur travail, être méprisés, rejetés, etc., etc., en raison de leur foi. Et peut-être pour d'autres circonstances, même si c'était certainement celles-là les plus vives à l'époque. Et Jacques leur adresse ce message-là. Face à l'épreuve que Dieu permet aujourd'hui, pour eux comme pour nous, et face aux deux chemins contraires qu'elles ouvrent devant nous, chemin de vie, chemin de mort, Jacques, son serviteur, nous invite encore ce matin à nous positionner chacun. Car quand l'épreuve viendra, la question sera alors, qu'est-ce que j'en fais maintenant de cette épreuve ? Et on peut le décliner de différentes maladies, de différentes manières, pardon. Par exemple, la maladie est là. Qu'est-ce que j'en fais ? Mon grand âge vient et est là. Qu'est-ce que j'en fais ? Autres situations qui peuvent aussi apparaître et qui malheureusement aussi sont traversées. Les difficultés dans mon couple sont là. Qu'est-ce que j'en fais ? Un autre exemple, et je le connais, mes enfants me font du souci. Qu'est-ce que j'en fais ? Autre souci, autre difficulté, autre épreuve, je ne trouve pas de travail depuis longtemps. Qu'est-ce que j'en fais ? Certainement quelque chose que nous avons traversé, plus ou moins un jour, je lutte avec un péché récurrent. Quelque chose qui est bien trop attaché à mon ancienne nature et qui demeure encore présent. Qu'est-ce que j'en fais ? Ou alors peut-être l'un de ces mots les plus vastes et qui a le don de corrompre beaucoup de cœurs, j'ai des problèmes d'argent. C'est pas qu'on n'en a pas, hein, dans l'autre sens. J'ai des problèmes, moi, avec l'argent. Qu'est-ce que j'en fais ? Et allez, un dernier exemple. Je ne sais pas si vous allez sourire en l'entendant celui-là. Mon église n'est pas exactement comme je voudrais qu'elle soit. Et ouais, on peut le vivre aussi comme une épreuve. Qu'est-ce que j'en fais ? Une seule réponse sonne avec justesse dans la révélation divine et elle dit en gros ceci. Tourne-toi vers Dieu simplement ce matin. Donne-lui le volant. Demande-lui de s'approcher de ta situation et abandonne-la entre ses mains. Renonce à tes droits. Renonce à l'amertume. Renonce au désespoir. Et renonce encore au repli sur toi. Et si tu es toi déjà dans cette dynamique de foi, alors tiens bon. Tiens le cap. Persévère. Dieu est en train de faire de belles choses dans ta vie, même si peut-être, là, maintenant, il t'est difficile de toutes les apercevoir. Lui qui est le Père des Lumières, le Dieu aimant duquel viennent toutes grâces. Il veut et il va te faire du bien dans ta vie. Je vous invite à vous incliner chacun. Et peut-être pendant un moment de silence que l'on puisse observer, que chacun puisse, pourquoi pas, aussi s'en remettre devant lui, par rapport à tout ce que nous avons pu partager là. Je vous invite maintenant à écouter un court témoignage que notre frère Nicolas veut nous soumettre suite à ce que nous venons de partager d'ailleurs. Donc je lui laisse la parole un instant.
Merci. Je sais que c'est peu habituel de partager quelque chose après une prédication. Je remercie Emmanuel pour sa confiance. Depuis quelques jours, en préparant la réunion de notre groupe de maison concernant l'épître de Jacques, évidemment la première parole qui vient nous interpelle individuellement. Nous vivons tous des choses difficiles, nous avons vécu et nous pensons, si nous avons encore des choses à apprendre de la part du Seigneur, qu'il va encore nous éprouver, mais c'est pour notre bien et nous l'avons entendu. Mais ce que j'ai à cœur de vous partager, c'est que Dieu nous éprouve individuellement, mais il éprouve aussi collectivement parce qu'il éprouve son peuple. À la réunion de vendredi, on a juste lu ce passage du Deutéronome 8, je ne vous le lis pas, mais je vous invite à le lire. Où le peuple, après 40 ans dans le désert, est proche du pays de Canaan, et Dieu va leur parler, et Dieu va leur expliquer pourquoi il les a éprouvés pendant 40 ans. Et il va leur dire, mais si j'ai fait ça, c'est pour éprouver les dispositions de votre cœur. Alors voilà ce que je veux simplement vous partager. Nous avons vécu collectivement, en communauté, des choses difficiles. Nous en vivons aussi aujourd'hui. Je parle du bâtiment, mais pas uniquement. Et nous en vivrons probablement demain. Dieu va place devant nous des épreuves. Le bâtiment n'en est qu'une. Et je vous assure que c'est une véritable épreuve encore ce matin pour notre vie communautaire. Il va nous placer devant des choix qui seront aussi des épreuves où il va tester notre foi collective, notre capacité ensemble à répondre de la bonne manière, comme Emmanuel nous l'a dit. Alors je voulais juste vous partager cela parce que c'est un fardeau sur mon cœur qui n'a pas de relation avec ce que nous vivons individuellement, mais plutôt collectivement. Et je voulais vous partager ça parce que lorsque l'épreuve va se placer devant nous, lorsque les choix vont se placer devant nous, rappelons-nous que c'est ensemble, avec le même esprit, parce que Christ est le chef de l'Église et qu'il est à nos côtés, qu'il nous a déjà donné les moyens d'en sortir, que nous allons pouvoir affronter cela ensemble. Je vous remercie.
Merci Nicolas pour cette parole. J'avais dans l'idée de dire quelque chose de similaire, mais il valait mieux te laisser la parole parce que tu l'as reçue là. Et c'était, on l'entendait, saisissant aussi dans ce que tu voulais nous transmettre. Que vraiment aussi le Seigneur nous parle et nous encourage vraiment à sa suite, surtout que nous puissions nous attacher à lui profondément. Et quand ces épreuves sont là, et je le vois au visage de quelques-uns que je connais bien, que les épreuves, même si elles sont peut-être derrière, elles laissent encore des douleurs. Attachez-vous, espérez en lui, rien n'est simple. Mais comptez sur lui plus que tout. J'arrête là ce temps de partage de cette prédication, nous aurons certainement l'occasion encore de pouvoir le glorifier par rapport à ce qu'il fait en nous, par rapport à ce qu'il produit en nous et tous ces fruits encore qu'il va accomplir, non seulement comme on l'a dit individuellement, mais aussi en tant que communauté, en tant qu'église, en tant que peuple. Alors nous allons avoir l'occasion de l'adorer dans un instant. Je vais passer la parole à Germina dans un instant, mais il y avait une annonce qui n'avait pas été faite. Je crois qu'on l'avait oublié de la lister. Et puis peut-être j'ai oublié moi-même de la refaire connaître. Donc je vais demander à Carole de venir, parce qu'il y a une annonce en vue du 16 novembre aussi.